Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Desmiers et ses invités.
Il est 14h, bonjour, et si on allait mieux tous les jours de 14h à 15h, c'est votre émission, votre espace bien-être, nous abordons tous les sujets sans tabou, vous pouvez me proposer des invités, des suggestions, m'écrire, ou écrire à mes invités, voilà. Et si on allait mieux, @gmail.com.
François Desmiers, tous les après-midi, et si on allait mieux.
Bonjour Pierre Davez.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Alorem. Alorem, c'est le diagnostic d'entreprise, formation, management, gestion des talents, motivation, innovation, salle de bien-être. Alors avec la crise, les entreprises ont le temps et les moyens de s'occuper encore du bien-être ?
Oui, ça arrive à être indispensable aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour le faire. Ils ont parlé de bien-être jusqu'ici, pendant ces quelques dernières années. C'est vrai de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'ils ont lancé des actions de bien-être qui étaient très ponctuelles.
Mais de quel ordre ? C'est pour les cadres dirigeants ? C'est pour le...
Alors, il y a des actions cadres dirigeants, mais elles sont discrètes ou elles sont très peu nombreuses. Le plus courant, ce sont les actions, par exemple, de massage assis au sein de l'entreprise. Ce sont soit des événementiels, des événements ponctuels, soit des prestations régulières avec des abonnements qui viennent... qui permettent à des praticiens de massage de venir détendre le salarié sur le lieu du travail.
Alors, quel type de salarié ça s'adresse en particulier ?
Il n'y a pas de généralité. D'une manière...
Ce sont des grosses entreprises ?
Oui, très souvent des grosses entreprises, mais on trouve, ça m'est arrivé moi, d'organiser de l'événementiel sur des populations de 30 ou 50 personnes, pas si loin d'ici d'ailleurs. En province, on a très souvent des effectifs moins importants. Ils pratiquent de plus en plus ce genre de technique. On a des cours de yoga, de reiki, de gymnastique entre midi et deux avec le comité d'entreprise. Donc ça se répand de plus en plus quand même.
C'est un gros marché le bien-être dans l'entreprise ?
Alors là, il y a des avis très différents. D'une manière générale, on pense que ce marché est en croissance de 30% par an.
Ouais, c'est énorme.
Oui, mais je pense que c'est plus que ça, parce que en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui découvrent les bienfaits du bien-être au travail. Il y a beaucoup de dirigeants qui encore aujourd'hui se disent on est là pour travailler, on n'est pas au Club Med. Mmh. Et malheureusement, ils n'ont pas compris que arriver à un certain niveau de pression, le salarié se retrouve avec moins d'efficacité, tout simplement. D'ailleurs, comme le dirigeant, mais je pense que le dirigeant souvent est surchargé, il a l'impression que c'est le seul dans l'entreprise, enfin j'exagère, mais à être au taquet, quoi.
Alors plus de bien-être, c'est plus de travail pour le salarié ?
Non, plus de bien-être, c'est travailler autrement et c'est travailler dans le plaisir et pas dans l'attention.
Donc quand vous arrivez dans une entreprise, donc c'est qu'on vous demande, donc je suppose. Donc vous faites comment se passe le diagnostic ? Ça doit être assez long quand même pour essayer de comprendre comment
oui,
ça fonctionne.
Oui, ça dure environ 2 à 3 mois. Si c'est un diagnostic fait dans les règles de l'art, du risque psychosocial, alors il y a deux aspects qui sont importants de détailler. Parce que
vous êtes combien ? Il y a toute une brigade
ou... Oui, il y a toute une brigade. Ça dépend de l'effectif de l'entreprise, mais d'une manière générale, nous, on apporte une douzaine de compétences sur un chantier, donc sur un projet. Alors c'est vrai qu'on est des innovateurs dans le sujet, donc nos concurrents apportent à peu près 3 compétences dans le projet, donc ça va... aller de 2 à 10 personnes, d'une manière générale, qui vont intervenir sur un projet. Et puis, dans les grandes entreprises, ça sera plusieurs dizaines de personnes qui vont intervenir, oui.
Donc, votre interlocuteur, c'est le DRH, c'est le...
Alors, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est un vrai sujet. En fonction de la loi, puisque la loi a progressivement évolué depuis 2003, à peu près, sur le sujet, dans les entreprises qui ont un CHSCT, c'est-à-dire au-delà de 50 salariés, c'est le CHSCT qui peut tout à fait obliger le dirigeant à faire ce diagnostic qui est obligatoire. Le dirigeant, dans beaucoup de cas, ne fait rien. Mm-hmm. Malheureusement, c'est une erreur parce qu'il croit qu'il va mettre le doigt dans un engrenage négatif sur le stress et la plainte négative, quoi, en permanence. Mais en fait, il se trompe. Et le pire, c'est quand c'est le CHSCT qui, par la loi de 2009, l'oblige à faire ce diagnostic. Là, il n'a plus le choix, il n'a plus de discussion possible, il est obligé d'obtempérer et de payer. Et là commence un bras de fer. Alors ça va dépendre de l'intervenant. Moi je sais que j'ai pas mal de dirigeants qui m'appellent en me disant je me suis fait avoir, on m'a imposé un CHSCT, le CHSCT m'a imposé un diagnostic Qu'est-ce que je fais? Je dis, si ça a été voté, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait s'y prendre. La bonne réaction, c'est quand le CHSCT met à l'ordre du jour la nomination d'un expert, c'est là que le dirigeant, au plus tard, doit réagir immédiatement. En fait, la vraie question, c'est de trouver le bon équilibre, gagnant-gagnant, entre ce qu'attendent les partenaires sociaux, enfin, j'allais dire les salariés, mais il faut quand même le dire, très souvent, à partir de 20 ou 50 salariés, c'est quand même les partenaires sociaux qui vont être les interlocuteurs numéro un sur le sujet. Donc,
il y a un bras de fer. Pourquoi ça?
C'est la loi qui crée cette situation-là.
Et vous trouvez ça juste?
Alors, dans la pratique, comme je le vis, d'un côté, c'est juste parce qu'il y a certains dirigeants qui abusent de la situation et qui ne veulent rien faire. Donc là, la loi, elle a tout à fait sa raison d'être. En réalité, dans la manière dont ça se déroule, en général, c'est pipé dès le début, très très souvent. Et pour ça, moi, je suis choqué de certaines situations qui se déroulent. Et on a très souvent des diagnostics, on sait très très bien que ça va se terminer dans la plainte, la critique, le négatif, etc. La conséquence de tout ça, c'est que le dirigeant ne va pas faire un plan d'action, alors que la loi l'oblige en plus.
Et les sanctions sont importantes s'il refuse ?
Alors oui, elles sont pénales, elles sont civiles et pénales. Aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de dirigeants qui ont été punis par la loi, parce que c'est une loi qui a eu du mal à se mettre en œuvre. Je dirais que...
C'est récent, cette loi ?
C'est progressif depuis 2003. Il y a eu même une mise à jour de la loi autour du sujet en 2012. Donc tous les deux ans à peu près, il y a une évolution de cette loi. Le seul problème, c'est que cette loi, elle met le dirigeant dans une situation qui est assez difficile. Et comme le diagnostic est souvent fait négativement, le dirigeant ensuite se retire en disant je peux pas appliquer ce qu'on me dit, les préconisations qui me sont faites sont pas applicables, ça coûte beaucoup trop cher. Enfin, il trouve une bonne excuse. Alors nous, on a pris une position différente. On s'est dit que il fallait aborder le sujet positivement en essayant d'être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les deux s'y retrouvent. C'est pour ça qu'on est apprécié sur le terrain sur ce sujet-là et on apporte vraiment des innovations. Par exemple, on va expliquer aux dirigeants que le fait de réduire le stress, ça va améliorer la productivité, et on est les seuls à le mesurer aujourd'hui. On sait mesurer cette productivité, la perte de productivité liée à un stresseur.
Et comment vous le faites, ça?
Ah, ça c'est 5 années d'études, recherche et développement, c'est un financement important pour arriver à une collaboration avec pas mal d'entreprises d'ailleurs, qui nous ont permis de développer de mettre en œuvre cette méthodologie. Alors, globalement, on va lister un certain nombre de stresseurs.
On retrouve toujours les mêmes, de toute façon.
Les stresseurs, ouais. On a une base de 25 qui reviennent tout le temps, presque. Enfin, pas tout le temps, mais souvent. Mais à chaque fois, dans nos questionnaires, on a des cases libres. La personne remplit ce qu'elle veut, quoi. Donc, je veux dire, la liste, elle n'est pas fermée. Et puis, on va essayer de faire la relation entre la perception de ce stresseur et donc l'émotion, la notion d'émotion, le niveau de stress que vit le salarié. Et ensuite, on va lui demander il y a une méthode pour ça, pour que ça soit fiable et sérieux, mais on va lui demander combien de temps il perd dans la journée à cause de ça. Et il suffit de faire la relation entre son salaire chargé patronal et puis son temps perdu, et on a une masse, et il suffit de faire la somme des personnes et des répondants dans le questionnaire, et on a la perte financière liée à un stresseur.
Et ça doit parler au patron, ça, au dirigeant.
Alors voilà, ça commence à parler maintenant. Maintenant, par exemple, quand on dit à un dirigeant, la dernière étude qu'on a faite, elle faisait 850 salariés sur 23 sites en France, la perte liée au stresseur était de 7,6 millions. L'entreprise fait 1,3 million de résultats financiers par an. Mmh. Donc on est à quelque chose comme 4-5 fois son résultat financier. Bien entendu, il ne faut pas se raconter des histoires. On ne peut pas réduire à 100%, 200% la perte financière. On va la réduire. L'expérience démontre qu'on fait à peu près les deux tiers, un peu plus des deux tiers en 6 mois, assez rapidement d'ailleurs. Donc là, dans son cas, c'est 5 millions d'euros. Et ça lui coûte 300 000 euros. En termes de plan d'action, puisqu'on chiffre également, on budgétise, on fait une estimation budgétaire du plan d'action.
La pilule arrive à mieux passer alors.
Alors là, oui. Là, c'est plus une pilule, c'est enfin le dirigeant a des informations factuelles, intelligentes, enfin je dirais utilisables pour lui, et enfin il a la possibilité de prendre une décision. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plainte et complainte, et puis accusation, et puis des bras de fer autour des interprétations des lois, etc. Donc je veux dire, ça n'a ni queue ni tête, ça, c'est pas comme ça qu'on va arriver à s'en sortir dans une entreprise.
Mais alors le dirigeant, souvent, ben, ça peut être de sa faute aussi, alors comment il le vit?
Alors, il y a plusieurs profils de dirigeants. Il y a les dirigeants, par exemple, du CAC 40, qui n'a pas créé son entreprise et qui a été nommé ou qui est arrivé là par la progression. Ceux-ci sont en règle générale assez bien sensibles, ouverts à la progression des conditions de travail.
On sait pourquoi?
Ben, parce qu'ils sont dans l'esprit eux-mêmes salariés, quoi. Je pense que c'est la nature qui fait les choses. Et dans ce fait, alors, s'ils ne plongent pas dans le bien-être, ou tout au moins dans l'amélioration des conditions de travail, c'est simplement parce qu'il n'a pas forcément toujours des interlocuteurs à niveau constructif en face de lui. Après, il y a le dirigeant qui a créé son entreprise et qui a 5, 10, 50 personnes, parfois plus.
Système paternaliste, un petit peu.
Le deuxième?
Oui.
Ça peut, ouais. pas forcément, on a tous les profils, mais d'une manière générale, le second, vous avez raison, il va réagir un peu en paternaliste très souvent. Si on commence à lui dire, il y a une personne qui souffre dans votre entreprise, il va se sentir concerné, accusé, parce que son entreprise, c'est un peu comme sa famille. Si un de ses enfants est malheureux, les parents, c'est quand même un peu entre guillemets de leur faute, ils se sentent un peu coupables. Alors que c'est pas forcément le vrai, c'est pas forcément le dirigeant qui est à l'origine de ça. Ça peut être le salarié qui tout seul, lui tout seul est malheureux, quoi. Il y a des gens qui partent en vacances avec un cocktail à la main au bord de la plage à Bali, qui sont anxieux et stressés.
Donc les remèdes que vous proposez, est-ce qu'il y a une sorte de liste commune à toutes les entreprises? Est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours oubliées, toujours mal faites ou toujours...
Alors, oui, c'est un vrai sujet. une liste commune, il y a des choses qui reviennent souvent. Il y a deux, trois choses qui reviennent sans arrêt. Après, on est vraiment sur mesure. À chaque fois, c'est vraiment du sur mesure avec l'entreprise et son personnel et son histoire aussi.
Et plus il y a du sur mesure, et plus c'est cher, je suppose.
Non, pas du tout. Non. Nous, on est pragmatiques. On va chercher d'abord des solutions simples et de bon sens qui coûtent rien. Et ça, on aime beaucoup. Après, bien sûr, quand il faut changer les chauffages dans un bâtiment parce qu'il marche pas et que les travailleurs sont, enfin les salariés sont travaillent à 8 degrés par exemple dans les saisons d'hiver. 8 degrés pour travailler, c'est quand même pas très sympa. Ça motive pas les salariés quand on est à l'intérieur d'un bâtiment. Je cite là en l'occurrence une entreprise dans le secteur bancaire, c'est quand même peu attendu de travailler à 8 degrés dans le secteur bancaire.
Mais ça, il y a pas quand même besoin d'un spécialiste de diagnostic pour voir qu'il y a un problème de chauffage quand même.
Oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Oui. En règle générale, très très souvent, ça fait ressortir un conflit de relations entre le délégué syndical du site en question et le responsable du site, où ils n'arrêtent pas de se mettre sur la poire tous les jours, donc ce sujet n'avance pas. Et le fait d'arriver avec un tiers qui vient souligner auprès de la direction générale que ce point devrait être réglé en priorité, ça permet de faire avancer les choses. On a vu aussi, des bureaux aménagés dans un dégagement, on va dire une pièce d'archive au début, et cette archive transformée en bureau, en fait, rendait le bureau invivable, puisque il y avait au centre de l'archive une énorme bouche d'égout, et les bureaux étaient mis par-dessus cette bouche d'égout. Donc, dès qu'il allait pleuvoir, les gens avaient envie de vomir tous les jours, quoi. Enfin,
effectivement, c'est pas du bien-être à profusion. Et donc, votre entreprise s'appelle Alorem, ça veut dire, c'est un mot latin?
Oui, c'est tout à fait, c'est un petit pied de nez à l'anglicisme, à la société de consommation d'aujourd'hui, donc on n'est pas ing, mais on est plutôt latin. C'est la contraction d'ad valorem, la valeur ajoutée.
Et donc dans cette entreprise, c'est simplement les conditions de travail ou carrément vous intervenez dans le management de l'humain, dans les personnes?
Alors, à l'origine...
C'est l'humain ou c'est du matériel que vous...
Ah non, c'est l'humain, on est vraiment spécialisé dans l'humain. À l'origine, le cabinet a été créé, on est un assessment center de nouvelle génération, c'est-à-dire on est ethic talent center. La différence avec les assessment centers classiques qui sont nés il y a 10 ans à peu près, il y a 10, plutôt 20 ans même, avant, ils étaient le moyen d'essayer de vous faire craquer pour vous faire voir que vous aviez un point faible. Mm-hmm. Nous, on est à l'inverse aujourd'hui, on essaie de comprendre comment vous fonctionnez pour vous proposer la meilleure perception de votre poste ou un plan de développement personnel. Donc on travaille beaucoup avec des coachs, avec des formateurs, pas forcément chez nous, chez le client, pour pouvoir vous adapter beaucoup mieux à votre poste.
Est-ce qu'il y a des types d'entreprises où ça se passe très bien et des types d'entreprises où ça se passe très mal en général ?
Il y a des entreprises où on arrive, quasiment tout est fait, tout marche bien. Ouais. Le dirigeant avait besoin de vérifier, d'avoir un œil supplémentaire pour savoir si on peut faire encore mieux. Il y a des entreprises qui sont au bord du scandale social. Oui, il y a des bombes allumées de partout. Enfin, c'est assez spécial, quoi.
Et est-ce que vous travaillez aussi avec les DRH pour le recrutement ? C'est quelque chose que vous abordez ?
Voilà. Alors, il y a une chose qui ressort très très souvent et que les prestataires en risques psychosociaux savent pas faire ressortir dans le diagnostic, c'est que un salarié, quand il est mal dans son poste, enfin quand il a été mal sélectionné, mal profilé à l'origine, il va se sentir mal dans son poste et il sera pas performant. Et ça, c'est un des principaux signaux faibles, du problème du risque psychosocial et du problème de la tension, du stress, de l'anxiété, etc. Donc, on offre à nos clients une prestation d'assessment qui va accompagner le recrutement, soit qu'il fait lui, soit qu'il nous concède, enfin, qu'il nous délègue. Et cet assessment, c'est la clé, justement, du point de départ. Enfin, c'est vraiment l'élément de base qui va permettre à chaque salarié de se sentir de mieux en mieux dans son poste. Après, il va y avoir toute la GPOC, la gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences, en clair, le plan de formation, qui, grâce à l'assessment, va pouvoir être décrit et défini très très clairement avec un plan de développement éventuellement, puisque la formation ne va faire progresser que les compétences, en étant simple. Alors que, par exemple, pour les fonctions commerciales, les managers, on a beaucoup besoin d'aptitudes avant d'avoir une acquisition de compétences. Et le bas blesse énormément sur ce sujet des aptitudes. Donc c'est l'assessment qui va nous permettre d'évaluer les aptitudes.
Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place ?
Ah oui, il y a, dans les forces de vente, il y a plus de 60% des profils qui ne correspondent pas complètement ou pas du tout.
C'est difficile. Et alors pourquoi les managers ne s'en rendent pas compte eux-mêmes ? C'est au moment du recrutement, c'est...
Parce qu'il n'y a pas l'accès. En France, on n'a pas cette culture d'évaluation du profil. Il y a tellement de gens qui bricolent. Je parle des prestataires à ressources humaines qui vont faire des propositions au DRH. Les DRH, ils sont submergés. Ils ont 20 ou 30 prospections par jour. Ils savent plus. Parfois, ils prennent une assistante rien que pour faire un barrage et pour travailler. Il n'y a pas le professionnalisme en France tel qu'on le retrouve dans les pays anglo-saxons. Je ne dis pas que les pays anglo-saxons doivent être une référence culturelle. Il y a plein de choses qui sont critiquables. Mais l'assessment, tout au moins... Alors, l'assessment, c'est un beau barbare, mais on arrive, c'est comme coaching, on arrive difficilement à le traduire. C'est une évaluation ou un profilage, on va dire. Cet assessment, en France, il n'est pas pratiqué. Quand il est pratiqué, c'est pas fait sérieusement, c'est fait avec un outil qui a 3 ou 4 dimensions. C'est du bricolage. On peut pas réduire une personne à 4 dimensions. C'est pas sérieux. Nous, on travaille sur 350 dimensions. Alors, je dis pas qu'on met en œuvre tous les outils d'évaluation qu'on peut mettre en œuvre sur une seule personne. C'est rare qu'on mette les 350.
Surtout qu'il y a beaucoup de métiers, donc vous avez vraiment une connaissance sur tous les types d'activités.
Alors, c'est pas lié au métier vraiment. Bien sûr, on a besoin du client pour définir le profil de poste, c'est évident, mais nous, on travaille pas sur les expertises métiers, c'est-à-dire je sais coudre, je sais souder, je sais faire la comptabilité, c'est pas notre expertise.
Est-ce qu'il y a des formulations de poste qui sont complètement idiotes par rapport aux besoins d'entreprise ?
Il y a des formulations de poste qui ne tiennent pas du tout compte de ce qu'est la personne. Quand vous allez dans une entreprise, déjà, vous demandez au DRH, est-ce que vous avez une fiche de poste ? 80% des fois, il n'en a pas. Et puis, quand il en a, il dit, la fiche de poste, elle doit dire que vous devez avoir tel diplôme. Et quand vous regardez, il y a certaines écoles qui sont réputées, d'ailleurs, qui vous offrent sur le marché des sortants qui ont de bonnes notes sur le plan... intelligence émotionnelle et relations humaines, parfois c'est des catastrophes. Donc on en a vu, alors je vais te faire plaisir, pas citer de grandes écoles, mais On a vu certaines grandes écoles diriger des entreprises avec des relais, c'est-à-dire que très souvent, quand il y en a un qui prend le poste, le deuxième, ça sera toujours celui de la même école. On a vu des entreprises se faire massacrer comme ça, par l'humain, par l'humain.
Alors il y a une question, je ne sais pas si on en parle encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'open space ?
Alors, il y a des entreprises qui s'en sortent très bien, et puis il y a des entreprises qui s'en sortent très mal. Donc, quand on mélange les genres, par exemple, si on a un comptable à côté d'une relation client, ben forcément, le comptable est sans arrêt dérangé. Donc après, c'est une question d'intelligence d'organisation et de bon sens. Mais il y a des dirigeants qui, malheureusement...
Vous restent... voyez que c'est une bonne chose, vous ?
L'open space ?
Ouais, c'est un gain de place.
Alors oui, c'est un gain de place. Quand vous regardez le prix au mètre carré... Si vous raisonnez, par exemple, si vous êtes patron d'une entreprise qui utilise plusieurs étages à la défense, il est évident que c'est ça qui va faire sortir du rouge votre entreprise sur les années à venir. Oui, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont avec des marges tellement réduites que 1 ou 2% sur le résultat, les locaux, c'est important. Alors, bon, la masse salariale, c'est important, mais les locaux, c'est important dans certaines structures. Alors, bien sûr, moi je suis contre l'open space d'une manière générale, mais je suis beaucoup plus pour le partage de bureaux de 3 à 5 personnes. Mm-hmm. Mais en clôture, clos, fermé. Ah.
Et pourquoi, qu'est-ce que ça apporte de plus ?
La communication, on échange, et puis on a trouvé...
Il faut que ce soit des personnes qui fassent la même activité, parce qu'autrement ça peut vite dégénérer.
Oui, très souvent on fait une cellule avec son chef de service, quoi, tout simplement.
Il y a des chefs qui acceptent de partager...
Ah, après, il y a une question d'amour propre, d'ego, etc., où le chef va chercher à avoir...
Ça, vous arrivez à l'expliquer, que ce serait mieux...
Alors, c'est pas nous qui décidons. Nous, on va se plier, malheureusement, à la politique du dirigeant, qui va dire à tel niveau de grade, ou je sais pas, à tel niveau d'échelon, on a un bureau et en dessous, on n'a pas. Bien entendu, les formations, quand on est en open space et quand on est manager... les formations touchent tout le monde. D'ailleurs, c'est pas que les managers. Hein, il faut apprendre à vivre en collectivité. Le plus difficile, c'est l'interculturel. Quand vous faites cohabiter un latino-américain avec un chinois et avec un français, ils n'ont pas la même culture. Hein.
Ça peut justement, on peut découvrir d'autres cultures. Ça peut être.
Oui. Alors ça, je suis favorable à
la
ça.
La mixité, c'est toujours bon.
Oui, mais quand je disais culture, mon sourire voulait dire, c'est vrai qu'il se passe pas à la radio, l'éducation.
Et est-ce que vous travaillez aussi sur des entreprises qui ont, par exemple, beaucoup de filiales dans le monde entier et qui quand même ont des relations par Skype ou par vidéoconférence ? Est-ce que ça a une importance ?
Oui, la vidéoconférence est pratiquée. Nous, on fait de l'assessment aussi d'évaluation de collaborateurs en visioconférence. On fait des séances de coaching en visioconférence, donc... on préfère quand même avoir un contact humain au moins une fois, mais moi, ça m'est arrivé d'évaluer deux Français en Inde parce que le dirigeant voulait absolument une évaluation d'urgence. L'évaluation se fait par un test psychométrique, entre autres, qui est envoyé par Internet, mais la partie entretien peut se faire en visioconférence. Oui.
Et pour les sociétés qui ont plusieurs filiales, est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, vous pouvez régler des problèmes entre plusieurs filiales qui ne sont pas des gens qui travaillent ensemble, justement, mais qui ne se voient jamais ?
Oui. Alors, dans le développement du business en France, on a un courant en ce moment où il y a des suppressions de postes en France pour remplacer, par exemple, un développeur en informatique par un Chinois ou par un Indien. On a de plus en plus des managers français qui se retrouvent avec une équipe quasiment vidée et qui se retrouvent avec la nécessité de diriger 5 Indiens et 3 Chinois. Mmh. Ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment ils marchent, ils savent pas comment on manage à distance.
Mmh. Ça s'apprend ?
Oui, ça s'apprend.
Il y a des techniques ?
D'abord, il faut se cultiver sur le sujet. Mmh. L'expérience fait beaucoup de choses. Il y a des techniques, mais il y a des choses à apprendre, oui, comme toutes les formations de base. Oui.
Donc, contre la crise, si les entreprises travaillaient selon vos principes, ça créerait de l'emploi, ça créerait de la richesse ?
Ah, alors ça, c'est une superbe question. Un jour, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, on a été appelé par le gouvernement et on nous a demandé ils nous ont demandé de leur expliquer la méthodologie qu'on proposait, qui était innovante. On a été cité comme innovateur. Dans l'esprit développement durable, donc ils l'ont remarqué, on est allé leur expliquer, ils ont trouvé ça formidable. Ils ont même demandé aux partenaires sociaux au sens large d'être à l'écoute de notre méthodo pour essayer de faire avancer les choses. Puis ils m'ont posé une question à laquelle j'ai pas su répondre tout de suite, c'est si on appliquait votre méthode, ça ferait gagner combien à la France ? Donc j'ai dit, je suis désolé, nous on raisonne par entreprise, on n'a pas l'habitude de ce genre de questions, mais je vais vous répondre, je reviens la semaine prochaine. Donc je suis revenu une semaine après, et la réponse, bien sûr on leur a soumis dans le détail le calcul et le raisonnement qu'ils ont validé, la réponse c'est 65 milliards d'euros de PIB qu'on peut récupérer. Donc pour se rendre compte, Monsieur de Montebourg, en juillet dernier, cherchait un milliard d'euros pour remonter la France pour l'emploi. Alors bien sûr, l'enjeu est de 65 milliards d'euros.
Mais ça coûte aussi aux entreprises.
C'est
déduit les...
Non, c'est pas déduit. L'enjeu à gagner est 65 milliards d'euros. Le résultat qu'on peut escompter avoir, il est plutôt de l'ordre de 50, entre 45 et 50. Et le coût, c'est de l'ordre de 5 à 10 milliards. C'est même certainement inférieur à 5 milliards. Alors, si en plus on mutualise des choses et on facilite des choses par des référencements, des normes, on va dire, ou des conseils, je pense qu'il ne faut pas continuer à alourdir le droit social en France avec des lois, parce que c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire, mais avec des recommandations et des normes et des méthodologies, je pense qu'on doit pouvoir avoir des coûts qui sont très faibles, qui sont bien plus faibles, et en général, le retour sur investissement, il est de l'ordre de 10 à 20. C'est énorme. Là, aujourd'hui, si vous prenez un investisseur qui joue en bourse, si vous lui dites on a un rapport supérieur à 2 ou 3, il tourne la tête, il vous dit ah bon, c'est quoi ? Et puis après, il vous dit non, mais c'est pas possible. Parce qu'on le saurait. Mmh. On le saurait, on serait déjà tous dessus. Et quand vous lui dites vraiment les chiffres, nous, on constate c'est de l'ordre de 10 à 20. Ils sont sceptiques. Bon, évidemment, ce genre de chiffres, que quand on les annonce aux dirigeants, on leur propose à huis clos de leur faire le détail du calcul et de leur faire valider. Donc on a eu, par exemple, le patron d'un centre de recherche et développement qui est très pointu en connaissances mathématiques et scientifiques et statistiques, ils nous ont validé le calcul.
Et donc, puisque vous avez était dans au niveau du gouvernement, est-ce que vous intervenez aussi dans les ministères, les administrations, ce genre de choses ?
Alors, non.
Parce qu'il y a des économies à faire aussi de ce côté-là. Il n'y a pas d'argent à gagner, mais des économies à faire peut-être.
Oui, certainement.
Si les gens travaillaient mieux.
Certainement. Alors, je pense qu'ils sont... il ne faut pas tout mélanger quand on parle d'administration, parce que quand on voit les pompiers, les infirmières, les hôpitaux, ce sont des gens qui sont sans arrêt au turbin, sans arrêt speed et stress. Il y en a d'autres qui sont dans certaines administrations, donc il ne faut pas généraliser, où effectivement la productivité elle est parfois même très très basse.
À Bercy par exemple, je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à faire.
Je ne sais pas, je ne suis pas allé à Bercy. En tout cas, je sais qu'ils viennent de prendre une décision de s'équiper d'un outil d'assessment en se réunissant à 5 grands ministères et puis la préfecture de Paris. Donc il y a un geste, il y a un sens dans ces directions, oui, tout à fait. Il y a une intention, en tout cas. Alors après, on va regarder comment ils s'en sortent et comment ils l'appliquent. Mais là, il y a récemment, c'est dans les mois passés, il y a eu une décision qui a été prise. Alors, en fait, moi j'ai l'impression, je ne suis pas spécialiste des administrations, et encore moins des ministères, mais ils ont quasiment, apparemment, pas de RH, de fonction RH.
C'est hallucinant.
Oui, c'est hallucinant. Ah bah oui,
parce que les ministres passent, mais les gens qui travaillent dans les bureaux, sont toujours les mêmes.
Voilà, tout à fait. Et quand un ministre passe et puis qu'un haut fonctionnaire, j'en connais, est très motivé par le nouveau programme et veut travailler avec ce ministre, il fait sa demande. Ça dure plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Et puis après, la mise en place va durer plusieurs mois aussi. Enfin, c'est... si on faisait ça dans le public, l'entreprise, elle perd sa compétitivité, quoi.
Alors, vous parlez très bien de l'entreprise, alors ce serait bien de dire quelques mots. Alors, au départ, comment vous êtes tombé dans le bien-être dans l'entreprise ?
Ah, ça, c'est une bonne question aussi. J'ai managé... j'ai une formation scientifique.
Oui, ça, vous voyez, là, tout d'un coup, les champs magnétiques intenses.
Oui, c'est vrai, j'ai fait de la recherche pour le CNRS sur les champs magnétiques. Hein, sens, ouais.
Ça intéresserait Bob, ça. Vous avez fait des découvertes?
C'est pas les mêmes, je pense pas que ça soit les mêmes.
Ah bon, il reçoit des astrophysiciens, des physiciens, des chercheurs.
Ouais, ouais. Il y a eu plusieurs, d'ailleurs, au CNRS à Grenoble, il y a eu plusieurs championnats du monde, enfin, records du monde, je veux dire, pardon, battus en aimantation. Et il y a vraiment, avec peu de moyens, je dirais, il y a vraiment de bons résultats. Donc, mais moi, enfin, ce que j'ai fait au CNRS, c'est il y a quand même quelques dizaines d'années. J'ai fait aussi de la recherche avec pour le Collège de France sur l'oreille interne. Bon, après, j'ai fait une carrière commerciale.
Alors pourquoi tout d'un coup, c'est étrange, c'est assez rare. C'est la première fois que j'entends dire qu'un scientifique tout d'un coup passe dans le commercial.
Oui, parce que ma perspective de rester derrière un PC toute ma vie m'a fait déprimer avant l'âge.
Pourtant, ça doit être passionnant la recherche. Oui,
c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Mais moi, je me suis réveillé parfois à 4h du matin sur une table à dessin ou devant une paillasse. Mmh. Une paillasse, c'est un endroit où il y a des expériences physiques ou chimiques. Et je pense que, pour moi, c'était pas enrichissant sur le plan humain. Quoi.
Ah bon, le commercial, c'est plus...
Ah ben oui. Alors, le commercial, il n'a pas toujours une bonne image parce qu'il a parfois une image de
requin.
De requin, de bonimenteur. Non, mais ça, c'est une mauvaise image qui est pas juste. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont très bien, les fameux, ce qu'on appelle les tueurs, sont des pourcentages de la force de vente qui sont très, très faibles. La relation commerciale m'a permis, moi, de connaître des clients et d'essayer de comprendre leurs besoins et de trouver des solutions à des clients. Et ça, c'est la chose la plus enrichissante que j'ai découverte au début. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire du management. J'étais chef de produit, ensuite directeur de produit, c'est-à-dire j'encadrais des chefs de produit et j'ai fait une direction commerciale.
Dans quel domaine de produit?
Dans la distribution de composants électroniques et de systèmes informatiques.
Bon, ça restait quand même dans la science un petit peu.
Ah bah oui, l'intérêt, quand on fait une deuxième carrière...
Vous ne vendiez pas des bananes ou des...
Oui, non, ou des yaourts. Heureusement. Et je suis arrivé à mutualiser, à m'appuyer sur mes acquis, oui, tout à fait.
Et ça a été dur la transition, parce que c'est rare les gens comme...
Ça a été une libération, celle-ci a été une libération.
Ça vous est venu comme ça?
Oui, j'avais de bonnes notes, j'avais bonne satisfaction, enfin je me faisais plaisir dans les sciences.
C'est une sécurité de l'emploi quand même au CNRS?
Ah non, oui, non, enfin vous savez, quand vous avez 25 ans, je pense qu'aujourd'hui il y en a qui raisonnent avec la sécurité de l'emploi à 25 ans, mais... C'est pas l'état d'esprit que j'avais à 25 ans. Non, on cherche plutôt à vivre des choses intéressantes, passionnantes, à vivre des émotions et à s'enrichir intellectuellement. Donc, j'ai eu la chance de faire une carrière commerciale. J'ai fait une direction commerciale et ensuite, je me suis retrouvé à une direction marketing monde dans un grand groupe du CAC 40 où j'étais manager, enfin responsable de la performance commerciale de 2500 commerciaux dans le monde. On était implantés dans 60 pays.
Donc situation confortable, bon salaire?
Bon salaire, ne s'entend pas d'une grande école française. Pas si bon que ça, oui. Ah un bon salaire confortable par rapport à un salaire moyen français, oui, tout à fait. Mais le poste confortable, non. C'était pas du tout...
Du stress?
C'était très intéressant. Ah oui, beaucoup de stress, oui. Beaucoup de stress parce que un service marketing, il met ses tripes sur la table presque tous les jours. Il sort des produits, il sort des solutions, il sort un tarif, il change une offre, il change une doc, il change sa communication. Faut pas se tromper parce que oui. Donc ça, du stress, oui, beaucoup. Alors justement, on a vécu beaucoup de stress dans les fonctions commerciales, dans les commerciaux, et on s'est rendu compte que y a beaucoup de commerciaux qui étaient pas bons, qui craquaient, et c'est vraiment le sujet qu'on a étudié pendant plusieurs années. J'ai eu la chance d'être nommé au Sales Governance Council, c'est-à-dire au comité. On était 8 à gérer pour le monde tous les méthodes et outils des fonctions commerciales. Donc, j'ai pu comparer les équipements ou les outils qui étaient à disposition des commerciaux dans certaines régions du monde. On a unifié tout ça, on a fait du changement, on a fait un système d'information qui centralisait toutes les données. Et c'était une telle usine à gaz que toutes les données étaient fausses dedans, pas du tout fiables. On avait moins de 60% de fiabilité des données. Et j'ai eu un patron à ce moment-là qui était génial et qui m'a dit nous, on veut du résultat, on veut travailler avec des données fiables, donc qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit pour l'instant, malheureusement, faire un système d'information en perruque. Je vois que cette solution-là, j'ai été appuyé, on l'a fait, ça a marché. Et ça a permis ensuite de réveiller les gens de la direction informatique Monde pour qu'ils se rendent compte que le système d'information en perruque marchait mieux que le système d'information qui coûtait 50 fois plus cher. Donc, ça a permis de débloquer un certain nombre de situations. Et en l'occurrence, l'ergonomie pour la mise à jour des données pour un commercial, c'était insupportable, alors que dans notre système, c'était très facile et très simple à faire. Cette expérience m'a permis de constater que, on a la possibilité de consolider toutes les données mondiales. Par exemple, on s'est rendu compte qu'on a des concurrents qui nous piquaient des commerciaux qui étaient liés à une technologie. Et un commercial connaissait telle technologie.
Les chasseurs de tête qui sont en marche.
Exactement, oui, internationaux. Donc, l'Italien se faisait piquer son meilleur vendeur en UMTS, par exemple. C'est une technologie télécom. Et puis, 15 jours après, on apprenait ça, du Portugal ou de la Hollande, etc. Et on voyait par continent disparaître, parfois en 3 mois, quasiment 80% de notre effectif commercial sur une techno ou sur une spécialité. Et c'est grâce à ça qu'on a créé le département d'intelligence économique, que j'ai créé le département d'intelligence économique dans la première division du groupe et qui a été ensuite dupliqué dans les autres divisions. Et c'est grâce à cette vue globale mondiale qu'on s'est rendu compte que les Français, comme ils sont pas jamais outillés en intelligence économique, ils se rendent pas compte qu'on se fait tailler des coupières par les concurrents. Mais alors, vraiment, tailler des coupières, on avait 30% des forces de vente qui démissionnaient tous les ans. Hein, ça fait un turnover qui est énorme.
Il n'y a pas de chômage, alors. En plus, trouver les bonnes personnes, donc c'est encore plus difficile.
Alors voilà, parce que le Français, après, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un technicien support de vente, et puis il remplace le slot, enfin la place manquante, enfin la place vide. Et malheureusement, il n'y a pas cette notion de profilage. Et donc, le technicien support de vente se dit, j'ai fait du support à la vente depuis 20 ans, pour moi c'est une promotion. Il le prend ça positivement, alors que c'est pas forcément un cadeau qu'on lui fait. Et puis après, il fait pas toujours son chiffre, pas toujours le chiffre qu'on lui demande de faire. Il sait pas forcément argumenter pour ajuster correctement le bon chiffre. Parfois, au bout de 18 mois, 36 mois, on le voit craquer, quoi. Donc, on avait 30% des forces de vente qui partaient, mais ils partaient avec 40% du portefeuille, parce que le gros problème, c'est que quand un vendeur s'en va et qu'il y a un trou derrière, les clients sont pas suivis. Donc, toutes les affaires qui étaient après la remise de l'offre, c'est-à-dire juste avant la signature, alors, les cycles de vente étaient de 18 mois, donc, ça pouvait durer 3-4 mois facile. Toutes les affaires en question, le commercial y partait avec, et puis comme il n'y avait personne en face, il changeait, il réactualisait l'offre depuis chez le concurrent, et il prenait la commande. Donc la France perdait, et perd encore aujourd'hui, énormément de business comme ça.
Donc par la suite, vous êtes venu à la création de votre propre entreprise.
Alors c'est sur ce constat-là que j'ai vu que la seule solution pour réagir, c'était d'améliorer les conditions de travail, mais d'une manière fondamentale chez les forces de vente, pour la force de vente. Donc d'abord de profiler correctement, de définir ce qu'était un profil commercial, de profiler les commerciaux ou les candidats en interne ou en externe avant de leur affecter un poste, et puis d'évaluer et de former les gens qui l'encadrent et qui les encadrent. Parce que en France, en Allemagne, les effectifs sont importants pour ces grands groupes, par exemple. Mais quand vous sortez sur des pays qui sont un peu moins développés, après l'Italie, par exemple, ou en Latin-Amérique, etc., souvent le commercial, on appelle ça le key account manager, c'est un manager grand compte senior. Il est souvent directement encadré par le dirigeant local, le président de la filiale. Et malheureusement, le président de la filiale, pour des raisons politiques d'influence, il n'est pas forcément manager, c'est plutôt le cousin du fils du roi, etc. Donc, on a un problème ici de compétence à l'encadrement, ce qui fait que l'encadrement des forces de vente sur place correspond pas, n'est pas motivant. Et on voit des vendeurs qui, soit ils s'en vont, parce qu'ils sont bons, mais ils n'ont pas le soutien en local, soit ils restent et puis ils font pas forcément leur chiffre et ils craquent. Enfin bon, il y a, en fait, améliorer le résultat d'une force de vente, c'est vraiment regarder pas que le vendeur, mais tout autour et réellement les moyens qu'ils ont pour bosser correctement, quoi.
Pierre Davez, on va marquer une première pause. Bob vous dit toute la vérité, présente les premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué. 27 conférences pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Le vendredi 13 et le samedi 14 juin à Paris. Les billets uniquement sur le site bob-toutelavérité.fr.
Bob vous dit toute la vérité, présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet.
Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Pierre Davez, le fondateur de Alorem. Donc, pour revenir au bien-être dans l'entreprise, lorsque vous voyez tous les suicides qu'il y a eu à France Télécom, est-ce que ce genre d'entreprise, est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème dans des entreprises ?
Alors, France Télécom, c'est un cas particulier quand même.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Oui, on sait pourquoi, oui, parce que ils avaient un nombre infernal de personnes à licencier, ils ne voulaient pas les licencier. Donc, ils ont fait craquer volontairement.
C'est grave.
Oui, mais c'est grave. C'est pour ça que s'il y a une accusation du PDG, c'est quand même fondé. Les partenaires sociaux ont raison d'essayer de mettre ça au jour, quoi. Mm-hmm. Donc là, c'est grave, oui.
Là, vous pouvez pas intervenir puisque là, c'est fait exprès, donc.
Absolument, absolument. Alors, il faut quand même dire que l'équipe a changé depuis, que le DRH en place est un homme extraordinaire qui fait beaucoup d'actions positives. Alors, ça marche pas forcément toujours parce que, après, on peut avoir des points de vue différents sur la méthode, sur l'approche, etc. Mais ils sont sortis, en tout cas, du trou noir parce que la direction a changé d'état d'esprit. Et aujourd'hui, il y a une sincérité pour, je pense, se redresser la situation.
Est-ce que vous pensez que dans l'entreprise, par exemple, le salaire des femmes, la manière dont elles sont, dont on les traite souvent lorsqu'elles sont tombent enceintes, ce genre de choses, est-ce que vous intervenez sur ces questions ?
On peut, c'est assez rare. C'est plutôt des juristes ou des médiateurs qui vont faire ce genre d'intervention.
Vous pensez que ça va évoluer ?
Oui, ça évolue. Non, mais attendez, c'est pas aussi noir comme ça. Je sais pas. Enfin, on peut aussi, vous savez, c'est comme le sujet des femmes battues. Vous trouverez toujours des femmes battues et c'est normal. Mais il y a aussi des situations où c'est pas aussi clair que ça. Donc, il faut rester avec du recul là-dessus. Donc, il y a. Par exemple, pour le salaire des femmes, il y a une DRH d'un grand groupe du CAC 40 qui a fait une étude sur le salaire des femmes en interne. Et c'était un effectif important. Hein. Et elle a fait une étude en tenant compte du niveau d'engagement de la femme. C'est-à-dire que chez les femmes et chez les hommes, elle a fait deux catégories. De celui qui vient ici pour partir le plus tôt possible, ou qui vient ici pour réussir sa mission et être engagé avec ses tripes dans sa mission. Et en fait, elle fait ressortir tout simplement, c'est un constat tout simple, hein, que dans ce groupe-là en tout cas, la femme engagée a le même salaire que l'homme. Mmh. Donc, alors après, quel est le rôle ? Enfin, après, c'est une question de philosophie ou de politique ou de niveau de vie, enfin de style de vie, pardon. Sur le rôle de la femme de son enfin dans la famille et dans l'enfant vis-à-vis des enfants donc ça après c'est une question de société, c'est plus vraiment une question de méthodologie ou de compétence sur les ressources humaines.
Donc vous travaillez bien sûr sur le bien-être et vous êtes venu nous parler d'innovations passionnantes sur le bien-être au travail. Alors ça va intéresser beaucoup nos auditeurs qui souvent sont pas très bien au travail.
Oui.
Enfin, pour ceux qui en ont un, parce que maintenant aujourd'hui
c'est vrai. Alors, oui, on apporte pas mal d'innovations aujourd'hui parce qu'on a une activité de recherche qui était jusqu'ici principale, jusqu'en 2013 principale.
En fait, vous-même de la recherche, donc c'est quand même c'est quelque chose qui coûte cher.
Ah oui, ça coûte cher, oui. Il y a eu pas mal de centaines de milliers d'euros d'investis sur ces 5 dernières années.
Vous auriez pu vous reposer sur vos lauriers, continuer
C'est ce que font tous les intervenants qui font le même métier.
Et pourquoi vous avez décidé, c'est votre passé de chercheur ?
Oui, c'est clairement... Et puis c'est aussi mon passé de marketeur, parce que je pense que quand on est face à des dirigeants qui veulent pas faire parce que ils se sentent pris en étau sur un contexte négatif et pas toujours constructif, et puis des salariés qui sont parfois ou souvent sincères en disant On en a marre d'être pas reconnu, donc je pense que c'est un vrai challenge d'essayer de trouver quelque chose pour les faire se rejoindre.
Alors cette innovation nouvelle, c'est déjà en place ou c'est simple encore
Celle que par exemple que je viens de vous citer, c'est-à-dire la capacité à évaluer l'impact financier d'un stresseur sur la rentabilité d'une équipe. Donc on est les seuls aujourd'hui à pouvoir dire aux dirigeants, vos salariés sont stressés à tel niveau à cause de tel et tel stresseur qui vous coûte tant en productivité et qui vous coûterait tant pour le réduire des deux tiers. Donc ça, c'est une vraie innovation parce que aujourd'hui, essentiellement sur le risque psychosocial, vous savez, le risque psychosocial, c'est un flop en France depuis plusieurs années. Il y a eu même quelques gouvernements passés. Il y a eu des bras de fer entre les ministres et les patrons, avec des listes noires, etc., d'entreprises qui ne voulaient rien faire. Bon, je pense que ça a peut-être été positif, ça a réveillé un petit peu tout le monde sur le sujet, mais il faut vraiment, aujourd'hui, trouver des solutions intelligentes et constructives et qui soient applicables naturellement et normalement sur le terrain. Donc nous, on a lancé, c'était sur la demande de clients d'ailleurs, on a fait de l'assessment sur des executive committee, des comités de direction, de grands groupes. Et puis, on nous a demandé de travailler énormément sur le stress et la motivation. Et en faisant un clin d'œil, en disant, si vous pouvez travailler sur la prévention santé en même temps, ça serait génial. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et les 5 années d'études nous ont permis d'investir vraiment d'abord dans de la formation. Et quand on est arrivé à la pointe des connaissances en formation, on n'a pas trouvé quelqu'un de capable de nous offrir des formations supplémentaires. On a commencé à partager, à faire de la veille, à faire du partage avec des chercheurs. Et puis après, on a lancé des programmes nous-mêmes avec des chercheurs pour avancer sur certains sujets. Donc, la première des choses, c'est que on a une approche positive, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant on va faire la guerre au patron. Nous, on n'est pas dans un camp. Notre force, c'est d'être indépendant. Et on essaye d'être constructif pour tout le monde et d'apporter des solutions gagnant-gagnant. Donc, approche positive. Ensuite, l'approche positive, ça se traduit aussi par un diagnostic qui n'est pas forcément au risque psychosociaux. On l'appelle de plus en plus un baromètre social ou un baromètre du climat social. Et on couvre l'impératif du noyau du RPS, du risque psychosocial. Donc ça peut se faire discrètement dans l'entreprise. La deuxième innovation qu'on apporte, c'est donc de pouvoir dire aux dirigeants, le stress qui existe dans l'entreprise, on l'a mesuré. Alors je vais y revenir sur la mesure. On l'a mesuré, il est à tel niveau. Alors c'est bien, c'est mal, c'est normal, c'est moyen, c'est etc. Et bon, ça, le dirigeant en général, il dit so what, on en fait quoi. Donc il y a des préconisations et on lui dit, écoutez, si vous appliquez les préconisations, ça vous coûte X et ça va vous rapporter probablement Y. Donc sachant que entre X et Y, il y a un rapport 5 à 20. C'est pas 2 à 3, c'est plutôt en général 8 à 9 en moyenne. Donc ça, c'est une deuxième innovation qui est totale parce que ça renverse complètement la relation autour du stress, la relation patron-salarié, quoi, enfin patron-syndicat. Et la troisième innovation, c'est en faisant l'inventaire des formations sur le stress et la motivation, on s'est rendu compte qu'il y avait un fabricant français qui a fabriqué un truc qui est génial, qui est une technologie nouvelle autour des neurosciences. Et ce sont des gens qui savaient qu'on faisait de la recherche. Pendant 2 ans, ils m'ont couru après, pendant tous les mois, ils m'appelaient. Alors, au début, ils avaient eu mes coordonnées par un ami qui est sérieux et qui est pragmatique, scientifique. C'est pas un gourou, etc. Donc, mais le truc, moi, me semblait pas vraiment... me semblait inhabituel, bizarre, quoi.
Ça vous a pas interpellé ?
Alors ça m'a interpellé, mais...
Ça a mis du temps.
Oui, mais ça a plutôt mis le doute dès le début, en me disant... Enfin, en plus, personnellement, j'ai construit des appareils de mesure. Par exemple, sur l'oreille interne, j'ai construit un appareil de mesure qui allait mesurer un effet physiologique sur l'homme. Donc là, il mesure une balance acido-basique dans le corps de l'homme. Enfin, et... Comme c'est un ami sérieux qui me l'avait recommandé, qui m'avait dit « tu devrais aller voir ça », c'est un fabricant français, il est à Paris d'ailleurs, c'est facile d'aller. Bon, je les ai pas envoyés balader. Et puis, gentiment, discrètement, ils me rappelaient à peu près tous les mois pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, écoutez, ok. Je vais pas vous dire, ah oui, dans le laps de temps, il y a quand même eu 2 autres personnes qui sont venues me dire, il faut absolument que tu ailles voir ça. Donc, je suis allé. Et j'ai fait le cobaye. Je leur ai dit, ben, écoutez, d'entrée de jeu, je vous dis rien. Vous me diagnostiquez, vous me mesurez, vous me restituez votre mesure. Et j'ai été sur les fesses, pour être poli, de la précision et de l'exactitude de la mesure.
Comment ça marche? C'est pas trop compliqué.
Alors, non, oui.
C'est des électrodes, c'est des...
Alors, oui, vous êtes obligé de poser vos chaussures, parce qu'il faut être pieds nus. Mm-hmm. Mais bon, dans une visite médicale, ça peut se faire facilement, c'est pas quand même...
Et pour le bien-être, c'est mieux.
Voilà, exactement, c'est plus sympa. Vous posez vos 2 pieds, vos 2 mains sur un capteur en cuivre, et on vous pose un petit patch sur le front, enfin 2 petits patchs sur le front, sur les 2 lobes frontaux, donc comme un électrocéphalogramme, ça dure 40 secondes.
C'est rapide.
Oui, c'est rapide, vous sentez rien, ça fait pas mal, voilà, et on vous sort en fonction du bilan que vous choisissez, 6 à 8 patchs sur vous. Mm-hmm. Alors en gros, on vous sort soit beaucoup
de caractère. En combien de temps on vous...
Ah, le bilan, c'est un système expert, donc c'est le temps de... Le plus long, c'est de générer le PDF, donc c'est vraiment quelques secondes, quoi. Donc...
Alors, qu'est-ce que ça dit, ce document?
Alors, ça dit votre... Alors, pour le bilan qui est le plus courant, qui s'appelle Bioflow, ça dit votre niveau de fatigue, de forme, on va dire, en restant positif. Mais ça le dit d'une manière fine. Échelle. Ce sont des graphiques, hein, sont comme des thermomètres, des baromètres. Mais ça vous dit votre niveau de forme physique, émotionnel et mental séparément.
Et ça a l'air un peu surnaturel, votre histoire.
Ça a l'air au début, oui, c'est tout à fait. Mais après, quand on gratte le sujet, c'est impressionnant. Parce qu'en fin de compte, physique correspond à un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine. Mmh. Émotionnel, c'est la noradrénaline, un autre neuromédiateur, et vous avez la partie mentale qui va être le moteur de la créativité, de l'innovation, etc. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, ça c'est la dopamine, et la sérotonine c'est la partie physique. Donc ces 3 neuromédiateurs sont additionnés, enfin voisinés d'un 4e qui est l'acétylcholine, qui va permettre de mesurer les niveaux de forme et de fatigue. Mais les 3 premiers vont mesurer votre équilibre psycho-émotionnel d'une manière générale. Et derrière, ça va se décliner grâce à...
C'est Big Brother, votre histoire?
Oui.
C'est un peu dangereux pour des personnes mal intentionnées?
Oui, tout à fait. Alors là, il y a... Tout à fait. Le fabricant a créé un comité d'éthique. On est 40 utilisateurs dans le monde. Je suis certifié depuis 2008 sur le sujet, non, 2005 ou 2008, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'il ne faut absolument pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. Donc anti-gourou, anti-secte d'entrée de jeu déjà. Mais anti-dérapage. Donc il faut être candidat, et la candidature est éventuellement retenue à la formation. Et tout le monde n'a pas l'appareil mis à disposition.
Ça s'appelle comment cet appareil?
Alors... C'est la société AMV qui fabrique ça.
Et l'appareil a un nom, c'est
pas spécialement. Ouais. C'est plutôt le nom des bilans. Mmh. Les bilans. Donc nous, on utilise la marque qu'on a déposée nous pour ne pas avoir de pollution par rapport à d'autres publications ou d'autres déviations possibles. Donc nous, on a retenu principalement 2 bilans qu'on utilise. Qui sont Bioflow pour la forme et le bien-être. Alors, je vais en parler tout à l'heure sur de l'autre, et Biopotentiel, donc c'est pour les équilibres psycho-émotionnels et besoins en développement personnel. Mm-hmm. Le premier, donc, vous restitue le niveau de stress que vous avez dans les 15 zones du corps et les niveaux de la répartition entre le stress et l'anxiété. Donc, il vous indique quelle est la nature de votre stress, s'il est cognitif ou situationnel. L'anxiété, c'est pareil. Si vous avez tendance à somatiser, les zones du corps impactées, on mesure les niveaux d'oxydation intra ou extracellulaire. Et après, on rentre dans les préconisations, les recommandations, c'est-à-dire que on vous dit si vous avez besoin d'eau, de chaleur, d'exercice physique, d'exercice...
C'est fabuleux cette invention.
C'est absolument fabuleux.
Et ce sont des Français qui ont mis ça au point ?
Oui, tout à fait.
Et donc ils doivent être milliardaires là aujourd'hui ?
Non, pas du tout, parce que
c'est une boîte qui a... Les Américains ne sont pas intéressés.
Si, alors il a refusé, si.
Pourquoi ?
Parce que c'est... Moi je suis content qu'on ait des Gaulois en France qui essaient de garder les bonnes idées. Et il y en a marre de se les faire piquer par les autres, quoi. Qui ont...
Alors, ils pourraient faire une filiale, ou je sais pas, ou l'utiliser, ou le.
Alors, mais pour l'instant, c'est un homme qui est un grand philosophe, donc c'est un sage qui dit moi, je n'ai pas forcément besoin de vivre comme un milliardaire, mais je veux que cette techno serve correctement aux gens qui en ont besoin. Donc, pour une fois, en espérant, on croise les doigts qu'ils tiennent, quoi.
Mais vous l'utilisez comment dans...
Alors nous,
ils doivent écarquiller les yeux comme moi quand on leur parle de ça, quand vous arrivez dans une entreprise.
Ouais. Au début, j'en ai parlé pas mal aux dirigeants, et puis je crois qu'il y a plusieurs fois des dirigeants qui ont pris pour des fous. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle qu'en option, discrètement. Et on dit, si le dirigeant désire qu'on fiabilise les réponses à des questionnaires ou à des entretiens, parce que dans les risques psychosociaux, vous avez des questionnaires d'abord à chaque salarié, à tout le monde. Et après, on prend une proportion de la population, entre 10 à 20% de la population, ça dépend des cas, qu'on va voir en tête-à-tête, en face-à-face, en entretien individuel et confidentiel. Et quand la personne dit « je suis en souffrance » ou quand on suppose qu'elle est en souffrance, on lui dit « ça vous amuserait de mesurer votre niveau de stress ?» Et en général, ils disent oui. Mmh. Mais, bien entendu, alors au début, la première fois, je l'ai proposé dans ma première offre, vers 2008 à peu près. Et là, c'était les partenaires sociaux. Ils nous ont carrément presque plaqué au mur en disant on n'est pas des animaux, on ne veut pas être mesurés, etc. J'ai dit ok, on enlève ça. Alors que le dirigeant l'avait accepté de bonne foi. Hein. Y a aucun problème de déontologie puisque les informations sont confidentielles et soumises au secret professionnel. Donc une mesure, c'est comme une visite médicale. Les données personnelles ne sont pas communiquées à personne.
Mais après, vous pouvez faire des statistiques sur le bien-être général de l'entreprise.
Alors voilà, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on arrive à donner une cartographie sur un échantillon représentatif de l'entreprise aux dirigeants sur l'impact du stress et les niveaux. Parce que aujourd'hui, on se rend compte, alors nous, on travaille aujourd'hui avec de plus en plus avec un centre de recherche hollandais. Ils constatent au niveau de l'Europe qu'il y a à peu près 15% de la population qui est ou en burn-out ou au bord. Alors burn-out, c'est un mot très à la mode, ça inclut en fait dans ce vocabulaire très souvent la dépression.
C'est expéditif aussi.
Ouais. La dépression, mais enfin au détail près qu'il y a le cortisol qui n'est pas au même niveau, mais c'est pas le résultat vu de loin est à peu près le même. Donc il y a à peu près 15% de la population qui est en fortement en altération aujourd'hui par le stress, l'anxiété. Et ces 15%-là représentent quelque chose d'important. Le seul problème, c'est que quand on fait ces questionnaires, les dirigeants, ils vont dire oui, c'est facile, il suffit qu'ils exagèrent les réponses et puis on va en faire un plat du stress dans l'entreprise. C'est pas sérieux. Alors nous, le point fort, c'est qu'on apporte cette technologie et on va faire une référence biologique.
Ouais.
Donc là, il n'y a aucune discussion. Parce que quand une personne souffre vraiment, biologiquement, on le voit. C'est impossible de tromper cet appareil.
Mais alors après, dans l'avenir, vous comptez faire, par exemple, avant et après, c'est-à-dire en rentrant dans l'entreprise pour la diagnostiquer, en faisant ce test-là, après, en changeant les choses et en faisant à la fin.
Oui, on peut tout à fait. Alors je tiens à dire tout de suite que en rentrant dans l'entreprise, on a tous signé une charte éthique sur le fait qu'on n'utilisera jamais cet appareil pour recruter. Donc, on ne veut pas reproduire des schémas comme celui d'Hitler. Donc,
bientôt, il va falloir une loi sur cette machine.
Oui, pourquoi pas. Oui, si elle se répand, ça serait bien de faire une loi. Oui, tout à fait. Une norme d'abord et une loi ensuite, oui. Pour les gros dérapages, oui, tout à fait. Donc, nous, on s'interdit de faire cette mesure pour recruter. On l'a fait pendant le recrutement, mais juste après la décision de recrutement, pour accompagner à la prise de fonction. Parce que quand on se rend compte, par exemple, que une personne est au bord du burn-out au moment de son recrutement, on peut l'accompagner de manière adéquate pour sa prise de fonction. Donc on fait des accompagnements, ce qu'on appelle les 100 jours de la prise de fonction, d'une manière très adaptée en fonction du besoin immédiat de la personne.
Bien, Pierre Davez, c'est passé très vite, on avait J'avais encore beaucoup de questions à vous poser.
Déjà.
Il aurait fallu plusieurs émissions. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous. C'était très sympathique.
Et à bientôt.
Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.